Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 2 mars 2018, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno reçoit les syndicats pour tenter de mettre un terme à la grève dans le secteur public.
Conférence des donateurs en avril à Genève pour faire face aux nombreuses crises humanitaires en République démocratique du Congo.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan aujourd'hui au Mali, dernière étape de sa tournée africaine.
Première visite officielle en Afrique du secrétaire d'État américain Rex Tillerson la semaine prochaine.
Washington demande à Moscou de faire pression sur la Syrie pour un respect du cessez-le-feu demandé par le Conseil de sécurité de l'ONU.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, les syndicats ont été reçus hier par le président Idriss Déby Itno, alors que le secteur public achève sa cinquième semaine de grève. Le point avec Jacques Aristide.
D'après un membre de la Confédération libre des travailleurs tchadiens proche du pouvoir, le chef de l'État a demandé aux syndicats de renouer le dialogue pour mettre un terme à la grève qui paralyse les secteurs vitaux, à savoir l'éducation nationale et la santé. Le président a indiqué que les mesures d'austérité ont été prises en conformité avec les bailleurs de fonds. La plateforme syndicale qui regroupe la CLTT, la Confédération libre des travailleurs tchadiens et deux autres syndicats doivent se réunir ce vendredi pour discuter de la réponse à apporter. La CLTT a suggéré au président Déby que s'il voulait faire des économies, il faudrait que le gouvernement fasse un audit du nombre de fonctionnaires. Réclamé par les syndicats depuis plusieurs mois, cet audit doit mettre en lumière le nombre de fonctionnaires fantômes qui serait au nombre d'environ 92 000. D'abord contre un projet de loi de réduction des salaires, finalement abandonné par le gouvernement, les mouvements sociaux ont repris quand les fonctionnaires se sont rendus compte de coupes effectives dans leurs salaires à la fin de janvier.
Une conférence des pays donateurs se tiendra le 13 avril à Genève pour lever 1,37 milliard d'euros afin de faire face aux nombreuses crises humanitaires en République démocratique du Congo. Anastasie Toudièche.
Pour Julien Arneis, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC, l'objectif est de mobiliser plus d'attention, de financement, mais aussi de l'assistance technique pour la RD Congo pour 2018 et les années à venir, afin de faire face aux urgences et aux multiples crises qui touchent directement les populations. La somme que l'ONU espère lever en 2018 représente le double des fonds demandés en 2017. En janvier, l'ONU avait lancé un appel pour obtenir 1,68 milliard de dollars pour une aide humanitaire, estimant que la situation y a atteint un point de rupture. En décembre, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, avait indiqué qu'au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère et pourraient mourir cette année s'ils ne sont pas assistés, rien que dans la région du Kasaï, théâtre d'affrontements qui ont fait des milliers de morts.
Hier à Dakar, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est fixé comme objectif de doubler les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. La veille, à Nouakchott, il avait annoncé une contribution turque de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel. Des détails avec Abdourahman Dia.
D'après le président Macky Sall, son homologue turc avait promis il y a 2 ans de porter le niveau des échanges avec le Sénégal à près de 250 millions de dollars. C'est maintenant chose faite et une nouvelle barre a été fixée à près de 400 milliards. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a multiplié le nombre d'ambassades turques sur le continent et les dessertes de la compagnie Turkish Airlines. Il a visité la nouvelle cité de Jamnagio, dont plusieurs entreprises turques ont participé à la construction. Mercredi soir à Nouakchott, Recep Tayyip Erdogan a signé plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, des hydrocarbures et des mines. Il a aussi annoncé une contribution de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel. Monsieur Erdogan, qui s'est rendu en début de semaine en Algérie, doit achever sa tournée africaine aujourd'hui par une étape de quelques heures au Mali.
Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a désigné Nelson Chamisa comme son candidat à la présidentielle prévue cette année. Des détails avec Reza Girondin.
C'est Nelson Chamisa qui a été choisi pour se présenter au prochain scrutin présidentiel par le MDC, divisé et endeuillé par la mort de Morgan Tsvangirai le mois dernier. Cela met fin à la guerre de succession au sein du MDC entre les trois vice-présidents du principal parti d'opposition du Zimbabwe. Du côté du pouvoir, Emmerson Mnangagwa a été choisi par la ZANU-PF pour être son porte-drapeau. Il a pris la tête du pays après la démission forcée du président Robert Mugabe après 37 ans de règne sans partage. Le nouvel homme fort du Zimbabwe a promis à plusieurs reprises que les prochaines élections seraient justes, libres et crédibles, sans annoncer de date précise. Le mois dernier, il avait indiqué qu'elles auraient lieu avant juillet. Selon la commission électorale, plus de 5,3 millions d'électeurs ont déjà été enregistrés pour ces futures élections.
La porte-parole du département d'État américain, Heather Nauert, a annoncé hier que le chef de la diplomatie, Rex Tillerson, se rendra en Afrique du 6 au 13 mars. Pour sa première visite officielle en Afrique, a dit Mme Nauert, M. Tillerson ira à N'Djamena, Djibouti, Addis Abeba, Nairobi et Abuja. Il rencontrera les dirigeants de chaque pays visité, ainsi que les responsables de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba.
Toujours selon la porte-parole du département d'État, M. Tillerson entend évoquer en particulier comment les États-Unis peuvent travailler avec leurs partenaires pour lutter contre le terrorisme, favoriser la paix et la sécurité, promouvoir la bonne gouvernance et encourager un commerce et des investissements mutuellement avantageux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'administration Trump qualifie d'idée peu sérieuse le couloir humanitaire dont parle la Russie pour évacuer les civils de la Ghouta orientale assiégée en Syrie. Ce qui est plutôt requis, c'est le cessez-le-feu dans toute la Syrie qui a été adopté à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Russie, samedi dernier, a déclaré la porte-parole du département d'État, Heather Nauert. Elle a ajouté que la trêve de 30 jours dans la Ghouta orientale, approuvée par le Conseil de sécurité, de toute évidence ne marche pas, et que les États-Unis blâment la Russie qui continue d'entraîner et d'équiper l'armée syrienne. Washington demande à Moscou de faire pression sur les Syriens pour qu'ils fassent preuve de retenue et aide à baisser la violence, non seulement dans la Ghouta orientale, mais également ailleurs dans le pays.
Les États-Unis minorent l'importance d'une série de déclarations du président russe Vladimir Poutine, selon lesquelles Moscou a un éventail de nouvelles armes stratégiques capables d'atteindre n'importe quelle partie du monde. La Maison-Blanche et le Pentagone ont qualifié de rhétorique de telles affirmations, ajoutant que les tentatives de la Russie de moderniser sa force nucléaire ne sont pas une surprise pour les États-Unis et ne vont pas ébranler Washington.
Et toujours à Washington, le président Donald Trump a annoncé hier que les États-Unis imposeront d'importants tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium, 25% et 10% respectivement. Il a dit que ces tarifs resteront en vigueur pendant longtemps et qu'il signera la mesure la semaine prochaine. Dans un tweet jeudi matin, M. Trump avait soutenu que les producteurs d'acier et d'aluminium américains ont vu leur industrie décimée par des décennies de politique commerciale qu'il a qualifié de mauvaise et injuste. M. Trump n'a pas précisé les pays qui seront affectés par ces nouvelles mesures. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le Cameroun a perdu des recettes douanières de plus de 2 milliards de francs CFA depuis 2016. C'est dû à la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique APE entre le Cameroun et l'Union européenne. Chaque année, 1760 produits sont exonérés de 25% et seront libres d'accès dès 2020, de même que les autres articles concernés par l'APE. La Namibie veut une loi pour l'émancipation économique des Noirs avant la fin 2018. La loi obligera notamment les entreprises étrangères à vendre une participation de 25% à des Noirs. Les défavorisés bénéficieront d'un financement pour acheter des participations dans les sociétés. La répartition des richesses en Namibie est l'une des plus inégales au monde. 6% des citoyens namibiens sont blancs et possèdent la plupart des entreprises. L'Égypte est le premier bénéficiaire des investissements directs américains en Afrique avec près de 2,5 milliards de dollars. C'est plus de 35% de l'investissement direct total des États-Unis en Afrique. Cet argent est injecté dans l'industrie, les services, la construction, l'agriculture, la communication et les technologies de l'information. Le président américain Donald Trump promulguera la semaine prochaine de fortes taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Une taxe douanière d'au moins 24% est envisagée sur l'acier, quel que soit le pays d'origine. L'Union européenne et la Chine promettent de riposter.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début hier à Birmingham, des championnats du monde d'athlétisme en salle.
La Russe Maria Latifkene a confirmé sa domination implacable sur la hauteur dame avec un bond à 2,01 m. La Latifkene, championne du monde en plein air à Londres en 2017, a signé sa 38e victoire d'affilée depuis 2016. Victoire russe également chez les hommes avec Danil Lysenko qui a créé la sensation en dominant le grand favori qatari, Moutaz Essam Barshim. Il a effacé une barre à 2,36 m à son dernier essai.
L'Afrique est représentée à ces mondiaux d'athlétisme en salle.
Tout à fait Idrissa, et elle était attendue aux 3000 mètres. Eh bien, elle a répondu présente. La triple championne du monde, l'Éthiopienne Genzibe Dibaba, est arrivée première, Tami, 8 minutes 45 secondes 05 centièmes. D'autres athlètes africains sont aussi présents à ces mondiaux d'athlétisme en salle, avec surtout un gros contingent ivoirien. En tête, Marie-Josée Talou, récente vainqueur aux 60 mètres des Jeux d'Indoor de Glasgow. Chez les hommes, il faudra compter avec Wilfried Kofi, Ben Youssef Meïté et la nouvelle perle Arthur Cissé. Le Burkinabé Fabrice Zango, lui, espère un podium après avoir battu le record d'Afrique du triple saut le mois dernier avec un bond à 17,23 m. On gardera aussi un œil sur Franck Elamba, le lanceur de poids congolais. Les championnats du monde d'athlétisme en salle, on le rappelle, se déroulent du 1er au 4 mars.
La FIFA ne veut pas de querelle politique dans le foot.
C'est ce qu'a affirmé hier le président de la FIFA, Gianni Infantino, évoquant le refus des Saoudiens de jouer en Iran. L'Arabie Saoudite refuse d'envoyer ses équipes de football en Iran dans le cadre de la Ligue des champions d'Asie depuis la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en janvier 2016. Actuellement, les rencontres entre les équipes saoudiennes et iraniennes ont lieu à Oman selon une décision de la Confédération Asiatique de Football.
Higuaín de retour en sélection d'Argentine.
Oui, Idrissa, le buteur de la Juventus Turin, Gonzalo Higuaín, a été rappelé hier après 9 mois d'absence. Le Parisien Giovanni Lo Celso est aussi convoqué tout comme son coéquipier en club, Angel Di Maria, mais pas Javier Pastore. Dans la liste du sélectionneur Jorge Sampaoli figurent également les cadres Lionel Messi, Sergio Aguero, Nicolas Otamendi ou encore Javier Mascherano. L'Argentine affrontera l'Italie à Manchester le 23 mars, puis l'Espagne le 27 à Madrid. Le 9 juin, elle disputera son dernier match de préparation pour la Coupe du Monde contre Israël. L'Albiceleste jouera son premier match du Mondial le 16 juin contre l'Islande avant de rencontrer la Croatie, puis le Nigeria. NBA, pour terminer, avec vous Idrissa, quelques résultats de la nuit dernière.
Les Los Angeles Lakers ont battu le Miami Heat 131 à 113 et les Philadelphia Sixers ont surpris les Cleveland Cavaliers de LeBron James 108 à 97.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. A très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
Les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook, tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Récemment, en Casamance, dans le sud du Sénégal, l'assassinat de 14 jeunes dans une attaque attribuée à des éléments armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. L'enquête a permis l'arrestation d'une vingtaine de personnes, parmi lesquelles le cerveau présumé. À Bofa, village situé à proximité de la forêt des Bayotte et à Toubakouta, d'où sont originaires les présumés meurtriers, la vie a repris son cours normal, même si les événements sont encore frais dans les mémoires. Sédina Abagay, envoyée spéciale à Bofa et à Toubakouta.
Déserté par ses habitants pendant plusieurs années à cause du conflit, le village de Bofa Bayotte est devenu tristement célèbre depuis le massacre des jeunes dans la forêt des Bayotte. Edouard Da Silva, chef de village de Bofa Bayotte, est l'un des premiers civils à arriver sur les lieux du massacre. Il revient sur cette journée tragique.
Quand les événements ont eu lieu, à tout moment, on parlait du village Bofa Bayotte, Bofa Bayotte. Les choses ne sont pas passées réellement à Bofa Bayotte. Les choses sont passées dans la forêt du Bayotte. La forêt du Bayotte, c'est une forêt classée. Je suis arrivé dans les lieux à 17h moins. J'ai vu des corps en train de venir par la voie des rizières que ces coupeurs-là empruntent. Nous avons fait descendre les corps au niveau de la RN4 vers l'entrée de Bouhouyou. Je faisais partie de ceux qui ont descendu des corps à l'aide d'une sarrette, avec les gendarmes et les sapeurs-pompiers pour pouvoir identifier corps par corps.
Natif des lieux, Edouard Da Silva affirme que l'exploitation illégale du bois dans la forêt des Bayotte est très ancienne. Il ajoute qu'il n'est jamais prudent de s'aventurer dans cette forêt, même pour les habitants de la localité.
Moi, je suis né dans les lieux. Mes propres parents ont travaillé dans cette forêt. Mais nos parents nous ont carrément interdit d'aller couper. Et c'est un lieu qui n'est pas autorisé à n'importe qui d'aller y accéder. Voilà pourquoi le village, quand nous sommes revenus en 2017, c'était la première lutte que les gens ont fait d'essayer de faire connaître aux jeunes qui sont nés après la guerre, qui ne connaissaient pas qu'est-ce que c'est que la forêt et qu'est-ce qui était des conséquences dans cette forêt-là. Il fallait leur faire savoir que nous sommes revenus, mais ces lieux-là sont des lieux interdits.
À Toubakouta, une quinzaine de jeunes ont été interpellés dans l'enquête ayant suivi le massacre. Malgré les stigmates de ces événements, les habitants tentent tant bien que mal de reprendre leurs activités quotidiennes, comme l'affirme Khadissa Ané, présidente du groupement des femmes de la localité.
Nous vivons paisiblement malgré les remous qui ont secoué le village et toute l'histoire qu'il y a eu après la tuerie dans la forêt des Bayotte. Vous voyez, nous les femmes, nous sommes dans les champs en train de labourer la terre pour avoir de quoi nourrir nos enfants. C'est tout ce qui nous intéresse en ce moment. Nous ne savons rien de ce qui s'est passé. Nous essayons juste de continuer à vivre normalement malgré ces événements.
Après l'attaque dans la forêt des Bayotte ayant fait 14 morts et 6 blessés, dont un gravement, les populations locales reprennent petit à petit leurs activités, malgré la hantise d'un regain de violence dans cette zone qui est restée inhabitée pendant plusieurs années à cause de la violence du conflit qui empêchait les gens de vaquer tranquillement à leurs occupations. À Ziguinchor, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, résurgence des affrontements entre Emma et Lendu dans la province de l'Ituri. L'ONU se dit préoccupée, craignant des recrutements d'enfants pour servir comme soldats des milices ou esclaves sexuels. Eddie Sango a interviewé le porte-parole de l'UNICEF, Yves Wilmot.
Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui sont déplacées suite au conflit interethnique, qui sont déplacées à l'intérieur même de la province de l'Ituri, et qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ont fui la province de l'Ituri et qui, en tant que réfugiés, se sont installées dans le pays voisin qui est l'Ouganda. Parmi ces personnes qui ont fui la violence, il y a un nombre important d'enfants. Nous estimons qu'aujourd'hui, plus de 80 000 enfants sont en déplacement enfants ont quitté leur village d'origine, leur communauté d'origine, suite à la violence interethnique qui sévit dans leur communauté.
Cette région a connu une des plus graves crises dans les années 99 et 2000. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette résurgence de ces affrontements interethniques?
Je n'ai pas, en ce qui me concerne, une information et une compréhension très précise. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la tension interethnique n'a jamais véritablement disparu et que de temps en temps, il y a eu des affrontements entre les différentes ethnies et qu'apparemment, récemment, c'est une confrontation entre des jeunes des deux ethnies qui a dégénéré dans une explosion de violence que nous vivons aujourd'hui et dont nous vivons les conséquences et tout particulièrement les enfants de l'Ituri vivent les conséquences.
C'est dans cette partie de la RDC où on a connu un grand recrutement d'enfants comme enfants soldats ou encore servant comme esclaves sexuels. Est-ce que la situation est revenue à ce point-là?
Je n'ai pas d'indication aujourd'hui me permettant de le dire. Par contre, nous estimons pour la province du Tanganyika à l'est du pays, le sud-est du pays, et la province du Sud Kivu qui se trouve au nord de la province du Tanganyika, nous estimons qu'il y a sans doute 3000 enfants qui sont aujourd'hui utilisés dans le conflit et qui sont donc catégorisés comme des enfants soldats.
Qu'est-ce qui est fait pour essayer d'arrêter cette situation en Ituri?
Nous menons en tant qu'UNICEF des activités de sensibilisation auprès des groupes armés et auprès des milices pour les convaincre de ne pas utiliser des enfants. Nous menons également des activités de sensibilisation au sein des communautés pour les informer du risque de voir leurs enfants être enrôlés, être utilisés au niveau des groupes armés et des milices. Mais au-delà de cela, ce que nous faisons surtout, c'est de nous assurer que des enfants qui sont sortis des groupes armés, qui sont sortis des milices, soient pris en charge.
C'était Yves Villemot, porte-parole de l'UNICEF RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Congo-Brazzaville, les États-Unis ont remis 30 millions de dollars au Programme alimentaire mondial, le PAM, pour faire fonctionner les cantines scolaires du pays. Suite aux repas servis à l'école, plusieurs enfants ont vu leurs résultats s'améliorer, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Mouela Ngoussou, qui s'est rendu dans une de ces cantines.
À l'école d'Iripon, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville, le repas est servi tous les midis à 838 élèves. Grâce au Programme alimentaire mondial, la PAM, et d'autres partenaires comme le Japon et les États-Unis, la cantine scolaire de l'école fonctionne normalement à la grande satisfaction des élèves.
Le riz avec les haricots, les sardines, les haricots, le riz, c'est tout.
D'autres élèves reconnaissent que les repas servis à l'école incitent plusieurs enfants à participer aux cours.
Mais parce qu'il y a les autres élèves qui n'aiment pas venir à l'école parce qu'on mange le riz ici. Il y a les autres qui viennent pour étudier. Il y a les autres qui viennent seulement pour manger. Ici, il n'y a pas la nourriture, il y a les autres qui font.
Le PAM a ciblé 54 000 élèves qui bénéficieront de repas en cette année scolaire. Il s'agit en tout de 470 écoles reparties dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Poula. Jeudi, le gouvernement américain a offert 30 millions de dollars pour permettre au PAM de pérenniser ses cantines scolaires. La directrice de l'école d'Iripon, Firmine Samba Nzomba, affirme que la qualité de la nourriture servie dans ces écoles est bonne, appelant ainsi les parents à contribuer au bon fonctionnement des cantines scolaires.
Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, on a reçu vraiment de bonnes qualités, que ce soit des petits pois, les enfants vraiment adorent ça. Et la qualité du riz, c'était bon. Jusqu'en fin d'année, les enfants vont très bien manger. Nous avons une situation du bois. C'est les parents qui devraient fournir du bois de chauffe, pour préparer les vivres. Mais souvent, quand on fait passer le message, bon, ils ne réagissent pas vraiment en totalité.
Malgré la crise financière et le manque de vivres, le gouvernement s'emploie à faire exister ce programme. Il compte sur l'apport des partenaires internationaux, tels que l'admet ici Pierre Ngwala, directeur général de l'enseignement de base.
Ça n'a plus de plus attendu, c'est pourquoi vous me voyez me déplacer personnellement pour accompagner l'équipe du PAM. Autant nous avons manifesté notre joie de savoir que les États-Unis nous ont aidés, autant également nous manifestons notre joie pour d'autres partenaires qui nous ont donné, notamment le Japon, le Brésil, qui nous viennent en aide. Jusqu'au moment où il y a quelques embellis du point de vue de l'économie l'économie congolaise. Aujourd'hui, on a amélioré les choses, c'est parti de 60 à 70% de réussite. Pour nous donc, c'est quelque chose de sérieux, politiquement parlant, mais aussi pédagogiquement parlant.
Plusieurs autres cantines scolaires sont développées pour les enfants autochtones dans le nord du pays. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Ici aux États-Unis, la 90e édition des Oscars aura lieu le dimanche 4 mars à Hollywood. Quelle est l'ambiance qui prévoit à Los Angeles à deux jours de ce grand rendez-vous du monde du cinéma? Yacouba Ouédraogo a joint sur place Arzuma Compaoré, l'envoyé spécial de VO Afrique à Hollywood.
Ici même à Hollywood, beaucoup d'excitation. Les gens sont venus du monde entier pour célébrer les meilleurs films de 2017. Il y a pas mal de presse étrangère qui est là aussi. Hier, par exemple, il y avait la mise en place du fameux tapis rouge qui a été déroulé en présence de beaucoup de médias. Beaucoup de caméramans étaient là pour immortaliser ce moment qui est devenu en fait un moment important dans la préparation en tout cas de la cérémonie des Oscars. Au total, nous avons 341 longs métrages qui ont été soumis aux membres votants de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. 92 pays ont soumis des films dans la catégorie film en langue étrangère. La compétition en film en langue étrangère est la seule compétition où c'est le pays des films qui soumet le film aux Oscars. Dans toutes les autres catégories, ce sont les réalisateurs eux-mêmes ou les producteurs eux-mêmes qui soumettent leurs films de façon indépendante.
Est-ce qu'il y a des films africains en compétition?
Il n'y a pas de film africain en tant que tel. Le seul film qui a une équipe africaine, plus ou moins une école de films africains au Kenya qui a participé s'appelle What to Water, nous tous en français, qui est en fait un film produit par une école de films allemande qui est partie au Kenya pour tourner un film sur une attaque de Al-Shabaab sur un bus en 2015. Et donc le film est un court-métrage qui a de fortes chances en tout cas de remporter l'Oscar en court-métrage cette année.
Qui sont les favoris? Est-ce qu'il y a des noms ou des films qui circulent?
Le grand favori en tout cas c'est The Shape of Water, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro qui a déjà récolté 13 nominations et qui pourrait très bien remporter le fameux trophée du meilleur film de 2017. Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance peut créer la surprise à côté de Get Out de Jordan Peele et aussi The Darkest Hour. Il y a beaucoup de films en tout cas en pole position, mais ça va être aux membres votants de l'Académie de pouvoir décider.
Que représentent les Oscars pour les nominés?
Les Oscars représentent presque tout. C'est le summum, c'est la crème de la crème du cinéma. C'est pour ça que tout le monde vient pour voir qui va pouvoir remporter les Oscars. Les Oscars vont être retransmis en direct dans près de 225 pays. C'est des milliards de personnes qui vont voir les films. Donc c'est un boost inévitable pour la carrière de ces films-là. Mais pas seulement, mais aussi pour les acteurs et les producteurs et tous les cinéastes en tout cas qui participent à ces films. C'est un changement dans le niveau aussi de carrière au niveau des cachets de façon très claire. Les Oscars aujourd'hui représentent pour tous les cinéastes l'objectif suprême. Après les Oscars, c'est un changement total au niveau de la carrière du film et aussi des acteurs nominés.
Arzuma Compaoré, envoyé spécial de VO Afrique à Hollywood.
Chaque vendredi sur VO Afrique, retrouvez John Lyndon dans L'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons du secret médical et de la confidentialité du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Selon les spécialistes, cette confidentialité est nécessaire car les PVV ont besoin de sérénité et de confiance pour accepter de faire leur test et dépistage et suivre leur traitement.
Pour en parler, nous recevrons comme invité Francine Karach, infirmière aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Elle nous dira comment les hôpitaux protègent le statut sérologique des personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Nous écouterons aussi le témoignage d'une personne vivant avec le VIH ainsi que de Serge Tamundele, conseiller juridique d'une organisation de personnes vivant avec le VIH.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Dave Magnus. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.